enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais partager avec vous une étude de la parole de Dieu et le message sera Jonathan et la reine Esther. Alors nous allons ouvrir notre Bible pour ça, dans 1 Corinthiens 10, 6. Alors les érudits de la parole de Dieu, là, pour le moment, ils ne savent pas où on va en venir, parce qu'ils disent, quel rapport y a-t-il entre Jonathan et la reine Esther? Alors, nous lisons dans 1 Corinthiens 10, au verset 6. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » J'aimerais juste arrêter là. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous savez que ça met longtemps de lire toute la Bible. Il faut quand même consacrer un certain nombre d'heures, voire de jours, de semaines, de mois, ou même d'années pour certains. Mais ça met longtemps pour lire toute la Bible. Alors, ce qu'il se passe, c'est que assez fréquemment, eh bien, selon notre cheminement, selon notre culture, nos envies, on se dirige un peu vers les mêmes passages, on a un peu nos favoris, et il y a des passages qui sont importants. Mais nous savons aussi que, eh bien, il nous est dit que toute la parole de Dieu, de Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, hein, et utile. Utile à quoi ? Ce passage, moi, ça m'aide, je ne sais pas si ça va vous aider, pour retenir la référence de Timothée 3,16, pensez à Jean 3,16. Jean 3,16 est le verset, en général, le plus connu de la Bible. Dieu a tant aimé le monde. Donc, même ceux qui ne connaissent pas beaucoup de la parole de Dieu, ils connaissent souvent Jean 3,16. Eh bien, alors pensez simplement à Jean 3,16 et vous dites, ah oui, c'est de Timothée 3,16. De Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli. Jésus avait dit tout est accompli. Ça veut dire un travail fini. Un homme de Dieu qui soit accompli. Là, on ne parle pas de l'œuvre qu'il fait, parce que là, l'œuvre, elle va venir. Il est maintenant propre à toute bonne œuvre. Pour le moment, c'est l'œuvre en l'homme. Avant de faire l'œuvre de Dieu, je veux dire pour Dieu, il faut d'abord que Dieu fasse son œuvre en nous. Et une fois que l'homme est accompli, alors nous pouvons faire l'œuvre de Dieu et après nous pouvons dire comme Jésus, tout est accompli dans le sens, j'ai achevé mon travail. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il y a ? Afin que nous dit qu'il y a quelque chose avant à faire. Eh bien, avant, il faut utiliser l'écriture, toute l'écriture, et elle est inspirée de Dieu. Il n'y a pas des passages, ça c'est inutile. Dieu n'a pas, on le dit ensemble, Dieu n'a pas rempli les pages de la Bible simplement pour faire un gros livre ou pour qu'il y ait un peu plus de volume. Non, tout est important. Et qu'est-ce qu'on a lu avant ? 1 Corinthiens 10, 6, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Là, il était question d'Israël, de tout ce qu'ils ont fait, comment ils sont sortis d'Égypte. Et il nous a dit, ces choses nous sont arrivées pour servir d'exemple. Ça ne nous choque pas, ça ? Qu'un événement soit arrivé, parce que là, c'est un sens direct, comme si ces choses étaient arrivées pour nous servir d'exemple. Et que nous soyons le sujet le plus important. Hein ? Mais nous sommes importants aux yeux de Dieu. Le passé, il est passé, on ne peut plus rien en changer. Alors ce que la Bible dit ici, eh bien, utilisez maintenant ces choses afin qu'ils vous servent d'exemple. Et dans le cas de 1 Corinthiens 10, c'est un exemple négatif. Il dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, ne devenez point idolâtres. Donc là, c'est dans un sens négatif, exemple à ne pas suivre. Mais nous avons aussi dans la Bible beaucoup d'exemples où nous pouvons suivre les exemples. Mais là où je voudrais vous attirer votre attention aussi, c'est ne vous identifiez à aucun personnage de la Bible sauf à Jésus. Je veux dire totalement. Et même à Jésus, ne vous identifiez pas à lui en tant que sauveur. Parce que si vous vous prenez pour le Christ, vous êtes déjà en phase de folie, orgueil, et nous sommes des représentants de Christ. Et nous avons reçu l'onction, la présence du Saint-Esprit en nous. Nous avons eu la grâce de Dieu de le servir. Nous avons eu le fait d'être co-héritier avec Christ. Et si ça suffisait pas, Dieu en rajoute encore et encore. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais prendre, c'est sa part à lui, sa gloire. Dieu dit, je ne donne ma gloire à personne. Or, il a dit, je leur ai donné ma gloire. Donc, dans un sens, il a dit, je ne donne pas ma gloire. C'est-à-dire, ce qui me revient, la gloire, l'honneur, je ne donne à personne. Par contre, il a partagé avec nous tout ce qu'il était, il y avait de lui. Tout ce qu'il nous fallait. Et donc, quand on regarde des exemples, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas imiter, mais nous pouvons néanmoins puiser des richesses, et vous le savez, vous le faites aussi, puiser des richesses des personnages de la Bible. Et ne choisissez pas seulement votre personnage favori pour vous identifier à lui, disant « moi je suis comme un tel hein ». Et ne faites pas ça, parce que vous passez à côté de beaucoup d'autres choses. Et vous savez, des fois, il y a des gens aussi, on va étudier dans l'Ancien Testament, mais il y a des gens qui choisissent dans l'Ancien Testament, oubliant que ces gens vivaient sous une autre alliance, dans une autre époque et une autre relation avec Dieu. Je pense que le roi David avait sans doute une vie de louange formidable. Hein? Et beaucoup d'entre nous disent « Ah oui, si seulement on était comme David !» Mais je mets un petit bémol à sa vie de louange, bien qu'il est un meilleur musicien que moi, je mets un petit bémol parce qu'il vivait dans une autre alliance que nous. Jésus a dit « De ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. » Donc Jean-Baptiste a dépassé David, d'accord ? Mais, il a dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit d'entre nous est plus grand par ce qu'il a reçu en lui. Et donc, il y a des choses à imiter et d'autres choses que nous n'avons pas besoin d'envier. Regardons maintenant de bonnes choses à imiter. Abraham, il nous est dit, est le père de la foi. Alors, on va encore voir juste une chose concernant Abraham avant d'en venir à Jonathan et à la reine Esther. Romains 4, verset 23, nous dit « Ce n'est pas à cause de lui seul, de Abraham, qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Vous voyez, c'est la même chose que ce que je viens de vous dire dans 1 Corinthiens 10. Vous le réalisez, ça ? C'est-à-dire, là, il nous est dit, on n'a pas seulement parlé de Abraham, mais en réalité, c'est pour nous que c'est écrit. C'est fort, ça, hein ? L'apôtre Paul dit, ce qui a été écrit sur Abraham, en fait, ça ne lui a rien servi, parce que sa vie était passée. Mais ce qu'on a écrit sur lui ou dit de bien sur lui, ça ne sert plus à Abraham. C'est pour nous que c'est écrit. Hein? C'est pas pour la gloire d'Abraham qu'on dise encore combien il avait une foi merveilleuse. Non, il est dit ici que tout cela nous a été donné maintenant et même écrit à cause de nous. Tout le monde peut dire à cause de moi. À cause de moi. Oui. Dieu a fait des choses à cause de nous. Parce que Dieu ne compte pas comme nous. Il dit pas s'il y a, je sais pas moi, 50% de la population de la terre qui accepte Jésus, ça vaut la peine d'envoyer Jésus sur terre. En dessous de 50%, ce n'est pas rentable. On ne va pas l'envoyer mourir sur la croix, vous voyez ? Mais nous faisons souvent ce raisonnement. Et on se dit nous-mêmes, mais qu'est-ce que je suis ? Eh bien, quelqu'un a souvent dit cette phrase. Si tu étais la seule personne sur terre qui allait un jour recevoir Jésus, eh bien, il serait quand même venu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. « À cause de nous, cela lui a été imputé à nous qui croyons. » Et dans ce sens, nous sommes aussi les enfants d'Abraham, le père de la foi. Et maintenant, donc, que nous avons fait ces préparatifs, que nous avons vu que tous ces exemples, toutes ces choses qui sont répertoriées de la Bible, c'est pour nous, c'est pour notre exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre de Jonathan et de la reine Esther ? Alors, tout d'abord, pour Jonathan, vous pouvez prendre 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Pour ceux qui ont des enfants, qui sont pas trop petits, mais relativement petits, ça vous est peut-être déjà arrivé qu'ils posent des devinettes entre eux. Hein? Alors, des fois, c'est le concours des devinettes. Et certaines devinettes, des fois, ne sont pas très évidentes. Hein? Et là, j'aimerais vous poser une devinette. Quelle est la différence entre Jonathan et la reine Esther? Vous voyez, c'est vraiment le genre de devinette qu'on pose souvent. Hein? Alors, vous pouvez vous creuser la tête, vous pouvez trouver des tas de choses, mais la personne voudra simplement vous dire quelque chose qu'elle aura à inventer. Donc, oui, l'un c'est un homme, l'autre c'est une femme, etc. Vous pouvez en trouver des. Vous voyez, ce genre de réponse, c'est juste pour vous faire réfléchir un instant. Ce genre de réponse, vous pouvez inventer des tas de choses. Et l'autre vous dira aucune. Hein, ça vous est jamais arrivé? On pose une devinette et puis la réponse, on vous dit aucune. Il n'y a pas de différence. Parce que, en fait, il veut souligner quelque chose qui est un commun entre les deux. Et quand je vous partage ce soir Jonathan et la reine Esther, mais ce qui est commun entre eux, pour moi, c'est qu'ils ont le sens de leur vie. Ils ont trouvé une destinée, tous les deux, pas de la même façon, mais tous les deux, à un moment donné, ont senti très fort qu'ils étaient appelés par Dieu à être un instrument de délivrance pour le peuple. Tous les deux ont senti ça. Et ça, c'est ce qu'il y a de commun entre eux. Et c'est ce qu'on va voir. Et voilà. Ouais. Et donc, il y a... Dans 1 Samuel 14. Donc, voyons 1 Samuel 14. C'est là que commencent les récits de Jonathan. Hein. Jusqu'à présent, on ne parle pas tellement de lui. Mais là, il a fait quelque chose de particulier. Et ce que j'aimerais souligner dans les traits de Jonathan... C'est tout d'abord son audace. Jonathan est un héros. Hein? C'est un héros. Et nous pouvons nous identifier au personnage de la Bible, j'ai dit. On ne peut pas le choisir et vouloir être 100% comme lui. Mais nous pouvons nous identifier à lui par bien des choses. Nous sommes aussi appelés à être des instruments de libération ou de délivrance pour le peuple. Chaque fois que quelqu'un est déprimé, ou opprimé de quelque façon que ce soit, l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de délivrance. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. D'accord? Et nous, en tant qu'ambassadeurs pour Christ, nous proclamons le même message de délivrance. Jonathan était quelqu'un qui avait de l'audace, qui a osé à un moment relever un défi. Il n'était pas dans une situation de majorité. Parce que la situation telle qu'elle nous est décrite dans la Bible... Je me demande si on réalise bien ce qui se passait à l'époque. C'était même pas une guerre, je veux dire, avec une armée d'un côté, une armée de l'autre. Non, la guerre, elle était dépassée. C'était une occupation. Ils vivaient une occupation. Nous n'avons pas beaucoup de personnes qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale ici, mais on peut imaginer des choses par rapport au récit qu'on a entendu, ce que c'est d'avoir un ennemi dans un pays qui contrôle tout. Hein? Eh bien là, c'est exactement la situation d'Israël. Voilà dans quelle situation ils s'en sont trouvés. Occupés par les Philistins. Et il nous est précisé que ces Philistins leur ont pris toutes les armes. Non seulement les armes, mais encore, ils veillaient à ce qu'il n'ait aucune possibilité de fabriquer des armes. Et quand ils avaient des problèmes avec leurs outils, qui étaient émoussés ou qui ne fonctionnaient plus bien, leurs outils agricoles, il fallait qu'ils aillent chez les ennemis pour les faire remettre en état. Donc c'était vraiment pour les tenir sous leur coupe. Et donc quand nous voyons cette situation, là on peut se dire que pour qu'un homme ose se lever, ose affronter l'ennemi, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les autres vont suivre? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'aurai du succès? Mais nous voyons que Jonathan, non seulement était un homme qui avait de l'audace, mais c'était aussi un homme qui savait méditer sur ce que Dieu voulait faire. Et il avait reçu de Dieu une qualité particulière. Il avait, vous pouvez le noter ça pour ceux qui écrivent, il avait une perception spirituelle du plan de Dieu. Il avait compris quelque chose du plan de Dieu. Il ne regardait pas seulement les choses naturelles en disant « voilà l'état dans lequel nous sommes, on est abattu, on est vaincu, on ne peut rien y changer ». Non, il avait compris quelque chose du plan de Dieu. Il avait compris que la volonté de Dieu, c'était de libérer son peuple. Et il avait compris, ça on le verra peut-être tout à l'heure, il avait compris aussi quelque chose d'autre, c'est que Dieu avait un plan pour David. Parce que ça va être très important dans sa vie. Jonathan savait où était sa place. Et beaucoup ne savent pas où est leur place. Des fois dans l'église, je ne parle pas de rendre un service, je parle de la place de soumission. Jonathan savait qu'il était le numéro 2. Il n'était pas du tout gêné d'être le numéro 2. Il était le numéro 2 par rapport à son père pendant toute sa vie. C'était son père qui était roi. Vous savez, c'est difficile pour un prince, des fois. Peut-être il voudrait régner, mais le papa, il règne. Et puis, tout prince qu'il est, il faut être soumis. Mais ensuite, et ça c'est une qualité remarquable de la part de Jonathan, il était attentif au plan de Dieu et il avait entendu les paroles prophétiques sur David et il les avait reçues de Dieu et acceptées. Il avait accepté que le successeur de Saül sera non pas lui, mais que ce sera David. Et il le dit. Et il dit, à cause de mon amitié pour toi, ça il le dit à David, eh bien plus tard quand tu seras roi, eh bien je serai à côté de toi, à la deuxième place. À la deuxième place. Quels sont ceux qui recherchent la deuxième place? Levez la main. Alors, en tout cas, si vous demandez à ceux qui sont allés pour les Jeux Olympiques, il n'y en a pas beaucoup qui couraient pour la deuxième place. Ils voulaient la première place, c'est la médaille d'or. Bon, il y en a une qui est pire que la deuxième, c'est la quatrième. Hein. D'habitude, c'est ce qu'on dit, et qu'on n'est même pas sur le podium. Mais il y en a qui étaient contents d'avoir leur deuxième place. Ils savaient calculer l'effort qu'ils ont produit, et aussi, et je trouve ça assez remarquable, un respect pour l'adversaire. De reconnaître, eh bien, il était plus fort que moi. Il y en a qui cherchent toujours des excuses. Si j'ai perdu aujourd'hui, je suis fatigué, pas en forme, pas ceci, pas cela. Non, des fois, il faut tout simplement dire, j'ai fait de mon mieux, mais l'autre était plus fort. Et donc, voilà Jonathan qui montre une qualité remarquable d'humilité. C'est que il dit, je suis à la deuxième place maintenant. Et plus tard, je le serai aussi. Et je serai bien à ma place, là où Dieu me veut. Et c'est pas pour autant que ça l'empêche d'agir pour Dieu. Et c'est pas pour autant que ça l'empêche d'avoir de l'audace. Et quand nous voyons sa foi, nous allons voir un petit peu au verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. » Et pour nous peut-être, bon, on n'y comprend pas trop rien. Est-ce que c'est bien important? Pourquoi il ne dit pas jusqu'au poste des Philistins? Chaque fois qu'ils utilisaient le terme « incirconcis », c'était pour rappeler l'alliance. C'est important l'alliance. Nous avons besoin de réapprendre des choses sur l'alliance. Nous vivons dans une société où les alliances ne veulent plus dire grand-chose. Alors, des fois, on entend parler des alliances, par exemple des grands groupes industriels ou autres, d'accord. Mais au niveau personnel, au niveau individu, qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin de redécouvrir la valeur du mariage, la valeur de l'alliance. C'est quelque chose de sacré que Dieu regarde. Et même, il y a un reproche dans un des prophètes qui dit, « Car c'est moi l'Éternel, je suis témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. » Donc, il y a des choses où Dieu redit par la bouche du prophète toute l'importance qu'il attache à l'alliance. Mais ces gens-là avaient compris quelque chose de l'alliance. Donc, tout d'abord, ils se placent dans une position spirituelle en disant, ceux-là sont incirconcis. Ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Nous sommes circoncis, ça veut dire nous avons une alliance avec Dieu. Dieu est de notre côté. C'est ça qui lui permet d'avoir de l'audace. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Alors ça ne nous semble pas être vraiment une déclaration de foi. Hein. Peut-être. Non, ça veut dire que, pour moi, je ne voudrais pas le blâmer en disant, il n'a pas de foi. Je voudrais dire, pour le moment, il a une position, une fois encore, d'humilité par rapport à Dieu. Je ne connais pas le plan de Dieu, je l'avoue, tout simplement. J'ai dit, je ne sais pas encore ce que Dieu veut faire, peut-être l'Éternel agira-t-il. Car, et là vient la parole de foi, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Et ça, c'est important. C'est important pour nous aussi en tant qu'Église de détacher nos yeux du nombre. Si nous étions ce soir des milliers, beaucoup de gens auraient une grande foi dans l'avenir de l'Église et tout ce qu'elle va faire pour gagner le monde, etc. Mais leur foi serait placée en qui ? Dans le nombre. Et nous savons que Dieu juge d'une manière particulière cet état de cœur. David, le roi David, a été repris parce qu'à un moment, ça l'a pris de compter combien il avait de gens dans son peuple. Et immédiatement, il a su qu'il avait mal fait. Parce que pendant toute sa vie, il n'avait jamais été favorisé, on peut dire. Premièrement, il était le plus jeune de ses frères. C'est pas bon. De ce temps-là, c'était pas bon de naître le petit dernier. Parce qu'on prenait les restes. Hein. Les avaient le droit d'aînesse, et puis il y avait tous les autres qui se servaient. Et puis le petit dernier, il n'avait pas grand-chose. Mais il a été choisi, malgré cette situation. Ensuite, il n'avait pas la faveur du roi. Au contraire, il voulait le tuer et le pourchasser. Il n'a rien fait pour l'aider à venir sur le trône. Et donc, pendant toute sa vie, il a eu des moments difficiles, mais toute sa vie était une aventure avec Dieu. Et donc, Dieu lui dit à un moment, il dit, c'est moi qui t'ai cherché de derrière les brebis où tu étais pour te faire roi. Et c'est moi qui t'ai donné tout ce que tu as. Et donc, ne l'oublions pas. N'oublions pas ce que nous avons. Je viens de lire un petit article où il y avait un serviteur de Dieu qui avait dit au Seigneur, j'aimerais savoir, Seigneur, dans mon ministère, dans ma vie, ce qui vient de toi et ce qui vient de moi. Alors, il était enseignant dans une école biblique. Pendant 3 jours, il ne savait plus rien faire. Plus rien. Dieu lui a montré ce qui était de lui. Il était un bon chanteur, il ne savait plus chanter. Il connaissait parfaitement la parole de Dieu, il ne savait plus où étaient les passages de la Bible, il ne savait plus rien. Il a dû se faire remplacer. Pendant 3 jours, il était incapable de faire son travail. Et Dieu lui a répondu à sa prière, lui a montré quelle était sa part et quelle était la part du Seigneur dans sa vie. Et donc, pour nous aussi, quand nous voyons David, qu'à un moment, il n'avait rien du tout, et à la fin, il a donné une fortune colossale, parce que si vous voulez compter les tonnes d'or qu'il a donné pour la fabrication du temple que Salomon allait édifier, il dit de ma fortune personnelle. Donc, qui a enrichi David? Qui lui a donné tout ça? Tout vient de toi, dit-il à l'Éternel dans 1 Chronique 29. Tout vient de toi. Et ce que nous te donnons, c'est ce que toi tu nous as donné. Donc, tout vient de lui. Et là encore, je dirais que Jonathan, donc, il déclare, il a cette parole de foi. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ça, c'est une déclaration de foi, mais ça ne nous dit pas encore ce que Dieu veut faire. Vous voyez ? C'est comme si on dit, par exemple, la volonté de Dieu, c'est de guérir tout le monde. En disant ça, on dit simplement une vérité générale, que la volonté du Créateur, c'est pas qu'une de ses créatures souffre et soit dans un mauvais état. Mais on ne sait pas encore ce que Dieu va faire ou comment il va le faire. Ça, c'est encore une autre affaire. Mais c'est pas ce qui arrête Jonathan. Parce qu'il reste pas les bras croisés en disant on fait rien. Il dit allons-y. Mettons-nous en marche. Allons jusqu'au poste. Et ensuite, il a un encouragement. Parce qu'il n'est pas tout seul. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Ça peut être une bonne chose et des fois une mauvaise. Quand on n'a pas vraiment entendu de Dieu et que quelqu'un est d'accord avec nous, des fois ça nous confirme. Mais on peut être aussi deux à se tromper. C'est pas parce qu'on est deux et même qu'on a exactement la même pensée que c'est une preuve de la volonté divine. Ça n'a absolument rien à voir. On peut être en vase clos, par exemple les sectes, hein, on coupe de l'extérieur, on est en vase clos, ben, à l'intérieur de ce groupe, tout le monde est d'accord, obligé d'être d'accord. Ils veulent des fois pas, mais on travaille pour que tout le monde commence à penser de la même façon. Mais ici donc, on voit que c'est pas parce que celui qui porte ses armes lui dit « fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre, que forcément c'est la volonté de Dieu. Surtout quand on sait comment nos sentiments peuvent nous tromper. Nous avons besoin d'abord d'expérimenter un renouvellement de l'intelligence avant de pouvoir commencer à nous fier à nos sentiments. Et ça ne veut pas dire que les sentiments sont mauvais, mais ça veut dire tout simplement que nous avons besoin d'appliquer ce principe, que notre âme soit sous la direction de l'esprit et pas livrée à ses sentiments. Et ensuite, eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens, montrons-nous à eux. S'ils disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Là encore, quand je disais de ne pas forcément suivre tous les exemples et de comprendre la différence entre ancienne et nouvelle alliance, nous avons dans l'ancienne alliance des gens qui n'avaient aucune capacité, comme nous, d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas le témoignage intérieur, puisqu'ils avaient une relation avec Dieu, mais comme des serviteurs de Dieu, mais pas comme des fils. Or, Romains 8 nous dit, parce que nous sommes fils, nous avons en nous cet esprit qui crie « Abba, Père !» qui crie le témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Hein? Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement fils de Dieu. Et cette façon d'être conduit par l'Esprit de Dieu montre que nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, mais aussi devenus fils, capables d'entendre ses directions. Et ces gens-là n'avaient pas ces possibilités. Alors souvent, ils demandaient des signes extérieurs à Dieu. Et Dieu les aidait, il les rencontrait, je dirais, là où ils sont. Ce qui ne veut pas dire que nous pouvons faire pareil, disant, ah oui, ils ont fait comme ça, la toison de Gédéon et le signe de Jonathan et d'autres choses encore que nous voyons souvent se répéter. Mais parce que nous avons besoin de comprendre dans quelle époque ils vivaient. Pourtant, ils ont fait des grandes choses pour Dieu. Nous ne devons pas les mépriser, hein. Ils ont fait des choses pour Dieu. Et donc, ils ont remporté une victoire. Nous voyons qu'ils ont suivi cette chose, cette direction de Dieu. Ils se sont montrés. Les Philistins ont dit, venez par là. Alors, ils ont compris. Ils ont dit, oui, Dieu nous encourage. Il faut y aller. Et voilà que, il nous est dit au verset 13, Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Alors, des fois, on dit en langage courant, faire des mains et des pieds. Eh bien, pour certaines choses, il faut y mettre nos efforts. Ce n'est pas tout qui vient toujours tout seul. Et des fois, c'est difficile. Et Jonathan était obligé de grimper. Il monta en s'aidant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Alors là, nous voyons une équipe qui fonctionne ensemble. Chacun sait quelle est sa part. Jonathan donne le premier coup, il tombe par terre et l'autre les achève. Et comme ça, ils avancent vite. Parce que si Jonathan prenait le temps de d'abord achever celui qui vient tomber, pendant ce temps, le Philistin suivant serait sur lui. Alors que là, ils peuvent avancer. L'un fait un travail, et il sait très bien ce qu'il doit faire, les abattre, et l'autre sait aussi ce qu'il a à faire, il les achève. C'est un petit peu barbare, hein, peut-être, mais c'est la guerre, hein. Et vous savez, nous sommes aussi dans une situation de guerre. Et j'ai dit que l'Église, c'est la famille de Dieu. Ok, c'est un des aspects de l'Église. Mais l'Église, c'est aussi l'armée de Dieu. L'armée, on n'a pas seulement l'infirmerie dans l'armée. Hein. Il faut aussi qu'il y ait des combattants, des valides. Et donc, il y a aussi des positions à prendre sur l'ennemi et avancer. Et donc, là, ben, c'est une belle illustration d'une équipe qui fonctionne. Mais là encore, une équipe. Il y a beaucoup qui veulent des fois faire du travail d'équipe, mais dans une équipe, il y a aussi un capitaine. Et tout le monde ne peut pas être le capitaine de l'équipe. Mais néanmoins, dans tous les sports, bien partout, il y a quelqu'un qui a été nommé capitaine. Capitaine, ça vient du mot latin, hein, la tête, capito. Et puis, oui, décapité, tout ça. Et donc, il y a quelqu'un qui est nommé à la tête. Et ici, il savait très bien quelle est la fonction de chacun. Jonathan allait devant, celui qui portait les armes allait derrière, et ils faisaient du bon travail ensemble. Et dans l'Église, c'est important aussi. Et vous voyez, là encore, Jonathan a son équipe qui fonctionne bien, parce que lui-même sait aussi se soumettre quand c'est nécessaire. Il sait où il est. Ça nous rappelle cet homme qui était venu près de Jésus en lui disant moi-même qui suis sous les ordres d'autres, eh bien, je dis à mes serviteurs, va, et il va, viens, et il vient, fais ceci, et il le fait. Et puis il dit, et toi, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, c'est une grande foi. Parce qu'il a compris quelque chose sur le principe de l'autorité, et aussi sur la puissance des paroles. Eh bien, là, c'est la même chose. Jonathan, lui, on a vu sa position d'humilité, sa capacité de reconnaître sa place. Ça ne l'empêche pas de faire partie des héros de la foi. Ça ne l'empêche pas de remporter des victoires au nom de l'Éternel. Et il est heureux dans sa position. Vous voyez ? Son audace, alors on se rappellera de Jonathan de plusieurs aspects. Son audace, le travail en équipe, sa foi en l'Éternel, sa capacité d'entendre de Dieu, sa perception spirituelle du plan de Dieu, son humilité et finalement sa récompense. Il a eu une récompense. Vous savez laquelle ? Peut-être vous dire, ça ne me ferait pas spécialement plaisir. La récompense, c'était par rapport à sa descendance. Alors que les autres descendants du roi Saül, eh bien, ils ont connu une fin tragique. Les autres frères ont été tués aussi dans la bataille. Hein. Et il y a pourtant eu le descendant de Jonathan qui a été accueilli dans la cour du roi David. Et David prenait soin à son entretien. C'était Mephibosheth. Hein. Et peut-être pour nous, on dirait, oui, mais une fois qu'on est mort, hein, à quoi ça me sert de savoir est-ce que c'est une grande récompense ? Pour les gens de l'époque, c'était quelque chose qui était très important que le nom soit conservé. C'était comme effacer votre vie, comme si votre vie n'avait servi à rien. Vous comprenez ? C'est le sens de votre vie. Nous savons que le sens de notre vie, c'est plus seulement que ce que nous allons laisser à nos enfants. C'est plus que ça. Mais néanmoins, dans nos enfants, nous avons investi des années, beaucoup d'efforts, et encore, et c'est pas fini. Mais nous désirons voir le fruit de tout ça. Eh bien, Jonathan a vu la récompense. Peut-être il ne l'a pas vu, mais enfin, je veux dire, nous voyons qu'il l'a eu. Il a été récompensé. Et même de ce fils, il a été honoré. Voilà pour Jonathan. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aussi ? C'était quelqu'un qui avait ce sens de la destinée. Sens de la destinée. Je suis un instrument que l'Éternel utilise pour la délivrance d'Israël. Et il était là au bon moment. Et ça, c'est un peu le thème du livre d'Esther. On va voir Esther encore. Esther, chapitre 4. On passe tout de suite au chapitre 4, verset 14. La deuxième partie du verset. Donc, on sait l'histoire, sinon on le rappelle en deux mots. Esther était une jeune fille qui n'avait pas de parents. Il y avait quelqu'un de sa parenté qui l'a pris comme fille adoptive, qui s'en est occupé. Et voilà que le roi du pays, eh bien, a chassé sa femme et il en veut une autre. Et puis, on lui amène des jeunes filles pour qu'il en choisisse une. Et Esther est choisie, devient reine. Et voilà ce qu'on lui dit, à ce chapitre 4, verset 14. « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Un temps comme celui-ci. Là encore, c'est une perception spirituelle du plan de Dieu. Vous voyez ? C'est pas regarder seulement la vie de quelqu'un au niveau de l'individu seulement, mais de faire partie de quelque chose de plus grand, plus grand, plus grand, plus grand que nous. Cette révélation extraordinaire que nous ne sommes pas le centre de l'univers et que tout ne tourne pas autour de notre personne. Une fois que vous avez cette révélation, ça vous aide énormément dans votre vie, énormément. Parce qu'avant, vous regardez tout le temps à vous, seulement vous, problèmes, bobos, tout le reste. Mais de dire que nous sommes une partie de quelque chose de plus grand et surtout de quelque chose qui est le plan de Dieu. Et là encore, être parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci. Et en quoi ça nous concerne, nous, personnellement, et ce soir, c'est que nous vivons en un temps comme celui-ci. Un temps comme ça, avec les événements autour de nous. que vous pouvez voir de vos yeux, si vous allumez un poste de télévision, vous voyez ce que des prophètes ont prophétisé pendant des milliers d'années, annoncé, avancé, des choses que nous savons, l'heure de Dieu, nous savons à quelle heure nous sommes, à peu près. Et nous savons que les choses avancent vers quelque chose de glorieux. Pour nous, de glorieux. L'avenir s'annonce bien pour nous, l'Église. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, des moments difficiles, mais il s'annonce glorieux. Il y a quelque chose qui se prépare. Et qui sait, nous savons que nous sommes parvenus à la royauté pour un temps comme celui-ci. Nous le savons. Royauté, tu veux dire que nous sommes des rois. Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Qui sont ces rois? C'est nous. Nous sommes des rois et des reines. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Si vous voulez la référence, combien veulent la référence? Alors on va chercher dans 1 Pierre 1 Pierre 2, verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le roi nous a adoptés dans sa famille, nous faisons partie de la famille royale. Jésus veut que nous régnions dans la vie comme des rois. Romains 8, 17. Non, 6, je crois. Et donc, nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à être des rois, mais nous ne sommes pas les rois dans le sens que c'est nous qui dominons sur tout. Nous sommes en dessous de celui qui est le roi des rois. Quand on dit Jésus est le roi des rois, ça ne veut pas dire que s'il y a des rois sur cette terre, au niveau des gouvernements, c'est lui qui est au-dessus de tout, bien qu'il le soit aussi. Mais avant tout, le roi des rois, ça veut dire ça. Et nous sommes aussi des seigneurs. Seigneurs dans le sens que le mot à l'étymologie, à l'origine, le seigneur, littéralement, c'est celui qui procure le pain. Celui qui procure le pain. Celui qui donne de la subsistance. Et nous sommes ceux qui avons le pain de vie pour ceux qui ont faim. Et nous avons l'eau vive pour ceux qui ont soif. Mais au-dessus de nous, il y a le Seigneur des Seigneurs. Et quand Paul et Silas étaient dans la prison et que le geôlier est venu tout tremblant, quand il a vu le miracle du tremblement de terre, il a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Vous voyez ? Seigneur, il a reconnu quelque chose en eux. Il a réalisé. Ça, ce sont des gens spéciaux. Là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il les a mis sur une position. Ce n'est pas une position d'orgueil, quelque chose qui doit nous élever au-dessus des gens, mais une position que nous devons comprendre, réaliser que nous avons reçu une autorité spirituelle. C'est pour un temps comme celui-ci que nous sommes parvenus à ce sacerdoce royal. Nous, c'est maintenant. C'est maintenant notre position. C'est maintenant le temps de faire ce qu'il faut. Alors voyons en quoi Esther peut nous aider dans cela. Eh bien, premièrement, avant d'être choisie par le roi, elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Je ne sais pas comment elle faisait sa toilette avant, mais en tout cas, dans Esther 2, il nous est dit exactement comment se passaient les préparations. Ce n'était pas, on l'a cherché de sa province, on l'a amené vers le roi, et voilà Esther, et le lendemain ils se sont mariés. Regardez la préparation. Verset 12, nous avons l'impression, des fois nous lisons en 5 minutes, nous lisons 2 chapitres. On a l'impression que ça s'est passé comme ça. Mais en réalité, verset 12, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec les aromates et les parfums en usage parmi les femmes. 12 mois de préparation avant même de venir dans la présence du roi. Et cela nous parle pour nous. On dit, Seigneur, nous venons dans ta présence. Combien de temps de préparation avons-nous fait pour nous présenter devant Dieu? Et je vais vous donner une bonne nouvelle. C'est que Jésus a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Même si vous sentez mauvais. Parce qu'ici, on parle de préparation au niveau de la toilette. Nous savons que ce qui importe au Seigneur, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Mais même si nous venons avec des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, nous savons qu'auprès de lui, il y a la purification. Jésus ne dit pas, prépare-toi d'abord et ensuite je vais t'accueillir. Non, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Viens à moi, je te donnerai ce qu'il te faut pour la purification. Mais en ce qui concerne le fait de se tenir dans sa présence et d'être dans sa communion, nous comprenons que là, il n'y a pas non plus à... Laissez-moi vous le dire de façon schématique. Jésus est là. Vous êtes sale. Vous sentez mauvais spirituellement. Qu'est-ce que vous faites? Beaucoup essayent d'abord de se rendre juste pour pouvoir venir à lui. Ça ne marche pas comme ça. On vient à lui et on reçoit sa justice. Maintenant, pour pouvoir jouir de sa présence, vous n'avez pas besoin de ressortir maintenant et encore une fois de faire quelque chose à l'extérieur de lui. Mais c'est dans cette union avec lui qu'il y a un temps de préparation. Ce temps de préparation qui nous permettra de jouir de sa présence, cette fois-ci non seulement d'une façon spirituelle, mais tout notre être, esprit, âme et corps. Parce que notre esprit est en union avec le Seigneur. Hein? L'apôtre Paul utilise une illustration tout à fait pratique, très claire, que toute grande personne peut comprendre. Il dit, celui qui s'attache avec une prostituée est une seule chair avec lui. On peut comprendre, il y a union. Eh bien, il dit, et de la même façon, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La Bible est assez crue hein, dans beaucoup de choses. Elle dit, voilà comment ça se passe. Si ceux qui veulent toujours être en communion avec le Seigneur, savoir comment s'approcher, la Bible nous le dit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Seulement, nous remarquons que malgré le fait que Jésus habite en moi, par l'Esprit de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit, souvent, ça n'a pas beaucoup d'effet sur ma vie, sur mon être, sur mon âme, sur mon corps. Et c'est là qu'intervient, pour moi, le temps de préparation. Temps de préparation, quand on voit que les parfums nous parlent souvent de la prière, les aromates et les parfums. Un temps de préparation dans la prière. L'huile, ça nous parle du Saint-Esprit. La communion avec l'Esprit de Dieu. De vivre cette vie remplie de son Esprit. Comment nous remplir de son Esprit ? Eh bien, être plus rempli de Dieu, c'est aussi manger plus de sa parole. Sa parole qui renouvelle notre intelligence, qui change notre façon de voir les choses, commençons à avoir les pensées de Dieu. Nous parlons comme Dieu parle, et comme je vous le disais, il se crée une habitude où nous comportons réellement comme ce que nous sommes, des ambassadeurs de Christ. Il y a donc une préparation par rapport au roi. Et ensuite, quand Mardoché, parce que c'est lui qui lui dit ça, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, il y a le moment où effectivement elle saisit l'occasion. Parce que jusqu'à présent, en tant que reine, elle n'avait rien fait. C'était une reine de beauté, on pourrait dire. C'était tout. Elle ne gouvernait pas. Ce n'est pas comme la reine d'Angleterre. Bien qu'elle ait aussi son premier ministre. Hein. Mais, je veux dire, elle n'était pas à la tête de l'État. C'est ça que je veux dire. Elle ne gouvernait rien du tout. Elle avait une place au milieu des autres femmes, concubines, je ne sais quoi. C'est vrai qu'elle était celle qui était le plus honorée de toutes. Elle avait le titre de reine, mais en réalité, elle ne faisait rien. Eh bien, je crois que des fois, les mêmes choses peuvent se produire pour des chrétiens aussi comme vous et moi. À quoi ça nous sert d'être une race royale, sacerdoce royal, race élue et tout ça? Mais qu'est-ce qu'on a lu dans Pierre? Que c'était pour faire quoi? Annoncer, oui. Annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour faire quelque chose, en vue de quelque chose. Dans le monde, il y a beaucoup d'honneurs qui sont donnés aux gens. On peut être membre d'honneur de quelque chose, ou citoyen d'honneur, ou être honoré de ceci, cela. Mais ce que nous voyons ici, c'est que d'une façon très pratique, il y a une préparation pour être dans la présence du roi, et ensuite prendre sa place, la vraie place. Nous voyons aussi que autre chose, c'est que une fois qu'elle se rend compte, voilà à quoi je suis appelé, voilà ce qu'il faut que je fasse, elle se rend compte qu'il y a un prix à payer. Ça risque de me coûter quelque chose. Et ça, souvent le diable s'en sert pour faire reculer les gens. Il dit, attention, si tu vas trop loin, il y aura des répercussions. Mais Esther sait comment réagir. Elle demande aux autres de jeûner et de prier avec elle. Jeûner, bien sûr, ça peut être privé de nourriture, mais c'est avant tout privé de certaines choses dans le naturel, d'une façon à ne pas nourrir la chair, pour pouvoir prendre du temps dans l'esprit. Et ça, nous en avons besoin. Nous avons besoin, tous les jours, de prendre des moments où on met les autres choses de côté et on se donne pour les choses de l'esprit. Esther savait que c'était important. C'est pas juste comme ça, on rentre chez le roi. Au contraire, les règles étaient très strictes. C'est pour ça que je dis aussi, faisons attention, on peut apprendre des histoires de la Bible, mais on ne peut pas faire des parallèles parfaits. Vous avez compris? Parce que rien que c'est... Moi, j'ai entendu des prédicateurs dire ça. Tu ne peux pas venir à Dieu comme tu es. Tu dois d'abord te préparer. Et cela conduit à des choses... C'est des déviations. On croit qu'on prêche la parole, mais en fait, on ne la prêche pas pour de vrai. C'est pas juste de le dire de cette façon. Vous voyez? Nous pouvons en tirer des instructions, mais ce n'est pas juste de dire « Le roi du livre d'Esther, c'est Dieu. Esther, c'est moi. » Donc, je dois me purifier. Donc, je dois prendre les bains et tout ça. Non, on ne peut pas toujours faire un parallèle parfait. On peut en tirer certaines instructions, mais des fois, il ne faut pas aller trop loin. Parce que sinon, il faut qu'on force le sens des choses et alors on est dans l'erreur. Donc, elle prend sa place, elle ose et elle a recours au jeûne et à la prière. Elle a recours aussi aux autres. Elle ose dire, j'ai besoin de votre aide, j'y arrive pas toute seule, soutenez-moi. Et ça, c'est important aussi. Nous avons vu que Jonathan, lui, il a fait un peu cavalier seul avec celui qui portait ses armes. Mais des fois, il y a des choses, il ne faut pas s'aventurer tout seul. On a besoin aussi de former un corps. L'Église est là. Et dans le sens de l'Église aussi, voyons que toute reine qu'elle était, Esther, elle n'a jamais perdu le contact et la soumission à Mardoché. Mardoché qui n'était pas son père naturel, mais on pourrait dire son père spirituel. De la même façon, ça peut se passer aussi dans une église. Qu'il y a quelqu'un que Dieu a mis en place, qui est le pasteur, et quelle que soit la place où Dieu nous emploie, quelles que soient les choses qu'il nous a données, il est bon de rester en contact avec cette personne et de recevoir de lui. Parce que là, c'est Esther qui, elle n'avait pas conscience de tout ce qui se passait à l'extérieur. Et nous ne savons pas toujours ce qui se passe à l'extérieur. Mais Mardoché, lui, savait. Et c'est la même chose aussi dans l'Église. Dieu donne dans l'Église des ministères où peut-être vous ne vous rendez pas compte de l'une ou autre chose, mais Dieu donne une perception spirituelle. Des fois aussi, c'est le don de discernement des esprits. Où nous voyons, attention, ici, là, il peut y avoir un danger, ou ça ce n'est pas une bonne chose pour nous. Et où, alors, quand nous sommes dans cette bonne relation avec ce personnage qui est Mardoché, en l'occurrence, à ce moment-là, nous pouvons recevoir aussi des instructions de Dieu pour le salut de tous. Parce que ça va beaucoup plus loin, vous voyez. C'est pas juste pour Esther. Parce que Esther, et c'est ça que Mardoché lui dit, n'est pas de faux raisonnement. Ne pense pas, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Il y avait une menace contre tous les Juifs, mais il lui dit, ne t'imagine pas que toi tu vas t'en sortir parce que tu es la reine. Parce que ce qui est en train de se comploter, eh bien, ça va toucher tout le monde. Et tôt ou tard, ça t'atteindra aussi. Et il dit, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Là encore, une position de foi. Mardoché était sûr, Dieu ne va pas abandonner son peuple. Et il s'est dit, Esther est peut-être l'instrument que Dieu a choisi pour la délivrance. Là encore, parce qu'il n'était pas, savait pas, est-ce que c'est ça? Il dit peut-être, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là. Mais en réalité, il l'a bien vu. Il a bien vu le plan de Dieu, comment Dieu a mis en place quelqu'un en vue du salut du peuple. Et donc, vous voyez, le fait que vous et moi, nous ayons notre place dans le corps, nous suivons la direction de Dieu, a des conséquences toujours beaucoup plus que simplement notre personne. C'est sûr que Esther ressort de cette histoire grandie. Elle n'est plus après la petite jeune fille juive qui a été, on peut dire, traînée de force dans le harem du roi. Parce que c'est ça la réalité, hein. Après, elle devient une vraie reine, respectée et honorée. Parce que le roi, en fait, fait ce qu'elle demande. C'est là qu'on voit vraiment qu'on est honoré. Et vous savez que nous pouvons arriver aussi dans cette position. Quand Dieu commence à écouter nos prières, il nous honore. Ça veut dire que nous sommes dans une relation avec lui, non pas où il nous obéit, mais il nous honore dans le sens qu'il va dans ce que nous lui avons demandé. C'est une position d'honneur. Et peut-être ça peut transformer la vie de prière de quelqu'un. De se dire, hey, je ne suis pas là juste pour faire mon devoir religieux ou pour rassurer ma conscience que je ne suis pas mort spirituellement, que je suis toujours encore en train de prier, mais quelque chose de beaucoup plus, de dire, je suis en audience avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il écoute ce que je dis, même il en tient compte, et il donne des ordres à ses anges de faire ce que j'ai demandé, et alors ça change aussi notre perspective de dire qui nous sommes. Nous sommes donc une race élue. Alors ce dessein d'élection de Dieu, c'est simple, Dieu veut élire tout le monde, ben, il faut être candidat. Et à partir du moment où quelqu'un est candidat pour Dieu, ben, il est élu. Formidable, hein? Il y a beaucoup qui voudraient être élus des fois, et chez les hommes, il y a beaucoup de candidats, mais souvent il n'y a qu'une place. Et ben pour Dieu, tout le monde est élu, mais ce ne sont que les candidats qui seront retenus, ceux qui désirent l'être. Alors je crois, en conclusion je dirais, nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui pour un temps comme celui-ci. Dieu nous a équipés, il nous a fait arriver dans cet endroit pour entendre ses paroles, pour agir en vue de la délivrance du peuple, non seulement ça, mais nous savons que ça aura des conséquences bien au-delà encore. Prenons notre place, ayons de l'audace, exerçons notre foi, puisons dans les exemples, relisez les exemples de certains hommes et femmes de foi que la Bible nous donne. Ce n'est pas ennuyeux de lire ces récits. C'est passionnant. C'était comme des romans d'aventure, certaines choses, hein. Bon, des fois, il y a des passages peut-être un peu plus difficiles, où il y a des passages aussi qui sont descriptifs. Ils ont aussi leur place. Vous rappelez, ce serviteur de Dieu aussi, il lisait les chroniques. Au bout d'un moment, il dit, Seigneur, quoi ça sert de lire tous ces noms? Autant lire l'annuaire. C'est avec l'énumération des noms. Le Seigneur lui a dit, mais je les connais tous par leur nom. Et ça lui a parlé. Même dans ce passage, vous voyez, Dieu peut en retirer quelque chose. De dire, je connais chacun par son nom. Donc, nous sommes encore dans des temps de préparation, bien que nous soyons déjà acceptés de Dieu. Nous prenons notre place, bien que nous soyons déjà à notre place. Et nous allons de l'avant avec de l'audace et de la foi, sachant que Dieu peut délivrer au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ça ne dépend pas du nombre, ça dépend de Dieu. Amen. Temple, merci pour ta parole. Merci pour tous ces héros de la foi. Ces gens ont vraiment existé, ce ne sont pas des contes de fées. C'est toi qui t'es manifesté, toi le seul vrai Dieu. Merci parce que tu vas nous donner aussi de pouvoir encore faire ce que nous devons faire dans les temps dans lesquels nous vivons. Merci Seigneur, quelle grâce tu nous fais de vivre et de voir, de nos yeux puissent contempler ce que tu es en train de préparer. Ce grand plan que tu as préparé depuis si longtemps, eh bien, est sur le point d'aboutir. Bientôt tu vas rassembler ton Église avec toi-même. Il nous reste peu de temps et ce peu de temps, eh bien, nous voulons l'employer à être à notre place, à être prêt là pour annoncer les vertus de celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a amenés dans son admirable lumière. Amen.